Je suis très heureux de saluer les uns et les autres. Quelques-uns d'entre nous, nous avons eu bon commerce ensemble depuis vendredi soir, beaucoup de joie. Mais bienvenue donc à ceux qui, comme je le disais hier soir, prennent le train en marche en souhaitant qu'il n'y ait pas d'accident aujourd'hui en nous rejoignant dans le bon wagon, ou wagon, celui de notre thème, ma Bible et moi. Nous allons lire ensemble un passage de Luc au chapitre 24, Luc chapitre 24, dans l'histoire des deux disciples dépressifs d'Emmaüs, revenus à un bel équilibre au contact d'une des plus belles études bibliques que la terre est jamais entendue. Luc 24, nous lisons à partir du verset 25 et jusqu'au verset 35. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Nous allons vers la fin du chapitre pour relire un passage déjà lu deux fois au moins, toujours donc dans Luc 24, au verset 44, dans la relation du ressuscité avec ses disciples, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Nous allons donc visualiser brièvement tout ce que nous avons partagé jusqu'ici, à l'occasion donc de deux séances plénières, avant-hier soir et hier soir. Et puis il y a un élément là qui manque, c'est notre séance réservée à ceux qui avaient vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans une méthode de mise sur fiche de la Bible. Nous avons beaucoup travaillé ensemble hier après-midi entre 17h et 18h45. Nous avons, vendredi soir, évoqué quelques généralités. Tout d'abord l'importance de l'amour pour les Écritures. Ensuite, la raison de ce centrage dans nos vies sur la parole de Dieu, notamment à cause du danger qui nous menace les uns et les autres de vivre une foi par procuration, c'est-à-dire avec les convictions d'autrui, au lieu d'avoir des convictions qui nous soient propres et qui soient fondées solidement sur l'ensemble des Écritures. Et puis nous avons lu ensemble un certain nombre de passages clés dans la Bible concernant les vertus extraordinaires par le Saint-Esprit de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui régénère. Nous avons vu les textes principaux sur l'inspiration qu'on appelle plénière et verbale des Écritures, l'efficacité de la parole de Dieu, ce laser, c'est l'équivalent de l'épée à double tranchant, ou ce scanner encore qui nous pénètre, qui va jusqu'au fond de nous-mêmes, qui, je dirais, nous coupe en rondelles, en tranches, n'est-ce pas, comme le scanner qui analyse l'être humain, tranche après tranche, jusque dans ses cellules, et quantité d'autres textes. Et puis, nous avons évoqué, hier soir, en introduction à notre seconde partie, l'importance d'avoir des méthodes pratiques. Avoir des méthodes pratiques. Et nous avons remarqué que les Écritures contenaient des méthodes et que dans le judaïsme, notamment, un certain nombre de méthodes qui contenaient même des gestes étaient à l'honneur pour mieux pouvoir s'imprégner de la parole de Dieu et la mémoriser. Nous avons souligné l'importance d'adapter ces méthodes, de personnaliser. Le Saint-Esprit nous rend ingénieux, nous avons tous un arrière-plan différent, une éducation différente, des capacités différentes. Nous devons apprendre à vivre à l'intérieur des possibilités que Dieu nous accorde. Donc adapter, utiliser ces méthodes dont nous allons parler chronologiquement, progressivement, ne pas vouloir tout embrasser d'un coup. Vous savez que qui veut trop embrasser peut étreindre. Et dans le domaine spirituel, c'est valable aussi. Mieux vaut travailler un certain temps avec une petite méthode, bien assimilée, et puis peu à peu ajouter d'autres éléments de méthode pour aller plus loin. Et puis nous avons passé du temps à souligner la nécessité de viser le bon objectif, à savoir non pas vouloir avoir une énorme tête, c'est dangereux, parce que si nous avons une énorme tête parce que nous avons le désir simplement d'accumuler des connaissances, notre centre de gravité est mal placé, hein. Nous devons avoir la tête soigneusement sur les épaules, les pieds soigneusement sur la terre et le cœur dans le ciel, dans la présence de Dieu. Alors là, il y a un équilibre et ceci est très important, de viser la recherche de la personne de Dieu, mieux le connaître pour mieux le servir, mieux l'aimer dans ce monde, pouvoir être transformé à l'image de son Fils Jésus-Christ. Nous avons mis une amplitude particulière sur ce point C. Et puis enfin, comme notre frère le rappelait très justement dans l'introduction, et ceci est fortement souligné dans le livre des Actes, mais aussi dans l'épître aux Hébreux, qui est par excellence l'épître de la persévérance qui est une preuve de notre salut, n'est-ce pas ? C'est un des points de repère de l'authenticité de la régénération que la persévérance de l'enfant de Dieu, persévérer. Et puis nous avons donc ouvert un grand chapitre qui s'intitule « Les trois approches complémentaires de la parole de Dieu ». Et hier soir était spécialement consacré à cette approche que nous avons intitulée, pour mieux nous souvenir, « L'approche par bateau ». L'approche lente, calme, aussi paisible que possible, bien que vous le savez, n'est-ce pas, il y a aussi des moments difficiles sur la mer, et il est vrai que notre méditation personnelle des Écritures peut nous valoir parfois d'être bien secoué par certains vents. Pensez à l'histoire de Jonas, à fond de cale, qui était assoupi, et le Seigneur a envoyé le vent violent pour le réveiller. Il y a des moments où la méditation des Écritures est là comme un vent violent qui secoue. Mais ce que nous voulons surtout souligner, c'est que nous avons besoin de prendre du temps au ras des flots de la parole de Dieu, en parcourant jour après jour, de courtes distances, quelques milles simplement, paisiblement, dans la présence de Dieu, pour pouvoir construire nos journées. Nous avons longuement évoqué cette importance du face-à-face avec Dieu. Nous avions introduit, je le redis, ce thème par ce portail royal d'entrée du psautier des cinq livres des psaumes, le psaume premier, où nous avons une remarquable image. Il est question de l'homme qui, plutôt que de marcher, de s'arrêter ou de s'asseoir dans le monde méchant, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la murmure, répétons, hein, la murmure jour et nuit. Nous avons remarqué qu'il n'était pas question dans le judaïsme biblique d'une méditation simplement mentale, passive, mais toujours d'une méditation active, qui se traduit donc par un murmure. Ou bien l'on parle à haute voix, ou dans un murmure. Et si vous avez déjà visité une synagogue à l'heure du Shabbat, vous savez qu'on entend un murmure qui s'élève. Si vous êtes allé au fameux mur des Lamentations à Jérusalem, vous savez qu'il y a presque un murmure permanent qui s'élève, accompagné de toute cette gestuelle d'avant en arrière, de gauche à droite, qui est aussi l'image du bateau. Hein. On rejoint là le tangage et le roulis de la méditation personnelle des Écritures. Alors vous voyez, nous avons besoin, dans nos églises évangéliques, de retrouver toutes ces dimensions-là du murmure des Écritures. Nous avons remarqué qu'il était question aussi de la copie des Écritures qui fait partie de la méditation de la parole de Dieu. Et donc dans ce psaume premier, après cette question du murmure, il y a une image qui est éloquemment suggestive quant à l'approche des Écritures. Celui qui donc murmure la parole de Dieu jour et nuit, mieux vaut murmurer dans ce sens que dans d'autres. Je crois que nous excellons trop souvent dans un murmure qui a valu au peuple d'Israël bien des fessées à partir du Sinaï, n'est-ce pas? Les 10 murmures qui ont suivi l'enseignement au Sinaï, la vision de la gloire de Dieu, l'érection du tabernacle, les 10 murmures qui ont suivi ont été sérieusement réprimés par l'Éternel. Alors que ceux qui existaient avant le Sinaï, le Seigneur est passé dessus parce qu'il y avait beaucoup d'ignorance. Et plus nous connaissons, plus nous devenons responsables de ce que nous avons reçu de la part de Dieu en héritage, et plus nos murmures sont coupables. Alors Dieu veuille qu'il y ait une conversion de nos murmures. Passons de nos murmures négatifs à ce murmure positif de la parole de Dieu, non seulement serré dans notre cœur, mais articulé par la langue. Il est donc cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. J'ai eu le privilège, il y a à peu près 3 ans, de me rendre dans un certain nombre de pays d'Afrique francophone pour toute une tournée de conférences et la visite de tout un champ missionnaire, et j'ai été très impressionné de survoler en avion de la cime la lisière du Ténéré. Ce grand désert, cet immense désert qui est devenu célèbre pour des raisons au peu brillantes du rallye Paris-Dakar, que j'ai d'ailleurs croisé là-bas, à Niamey, et vous savez certainement, vous ne savez pas, peu importe, on l'apprend, que le désert du Ténéré couvre un territoire grand comme les 4/5 de notre pays. 400 000 km². Et une des particularités du Ténéré jusqu'en 1973 exactement, c'est qu'il ne contenait, en dehors du sable, des pierres et un certain nombre de richesses au niveau de ce qui donne l'uranium, etc., il contenait un arbre, un seul arbre. Imaginez les 4/5 de notre territoire national avec un seul arbre. Un seul arbre. Un acacia radiana situé à une 50aine de kilomètres de la ville la plus proche, Agadez. Et bien entendu, on s'est posé des questions concernant la présence d'un seul arbre dans ce désert du Ténéré. D'autant plus que le thermomètre peut y monter à jusqu'à 54-56 degrés à l'ombre, donc ajoutez un certain nombre de degrés et vous montez facilement à quelque 70 degrés au soleil. C'est un arbre qui est d'une telle importance qu'il figurait sur toutes les cartes de géographie, parce qu'il était vraiment une source de salut. Pour quantité de caravanes, il indiquait aussi la présence d'un puits à proximité, et bien des gens se sont perdus dans le désert du Ténéré et sont morts, faute d'avoir pu atteindre cet arbre du Ténéré. Et puis en 1973, semble-t-il à cause du simoun, d'une tempête de sable, un chauffeur dont je tairai la nationalité, a fait une fausse manœuvre. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'une circulation intense pour faire des accidents. Et le seul arbre de ce grand désert a été renversé. Mais les autorités du Niger ont transporté cet arbre considéré comme une véritable relique dans le musée national à Niamey. Je l'ai visité, c'est le plus beau musée, semble-t-il, de toute l'Afrique. Et il est là, sous un mausolée qui attire la ferveur de la population, à cause de toute son histoire. Sur les cartes actuellement, figure toujours l'endroit où se situe l'arbre du Ténéré. Mais il a fallu trouver une solution. Alors on a remplacé l'arbre par une espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, un porte-manteau métallique, une espèce de bizarre sculpture éminemment moderne, couverte de graffitis, au pied de laquelle d'ailleurs on a retrouvé à diverses reprises des cadavres de personnes qui étaient mortes de soif. Ce qui fait dire à certains gens là-bas dans le pays qu'il y a désormais depuis 1973 les mauvais esprits qui rôdent, n'est-ce pas? Alors quand l'arbre est tombé, On a creusé pour essayer de comprendre l'histoire de cet arbre. Alors on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres. J'ai lu plusieurs chiffres très différents les uns des autres, mais on a creusé jusqu'à 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, et l'on n'arrivait toujours pas jusqu'à la dernière radicelle, en quelque sorte, de l'arbre. Et finalement, à 33 mètres, certains disent 50 mètres, mais peu importe, hein, déjà 33 mètres, imaginez la hauteur de votre maison éventuellement, multipliée par autant de fois pour atteindre 33 mètres, et ça vous donne une idée de la longueur des racines. Et là, on est arrivé dans la fameuse nappe phréatique, et en réalité dans le lit d'un ancien fleuve qui traversait toute cette région autrefois. Vous savez qu'on a dans le massif du Ténéré, du Hogar, etc., n'est-ce pas, on a toutes sortes de traces, notamment sur la roche, de tout un passé tout à fait florissant dans le domaine des animaux, de la faune, de la flore, de la végétation, n'est-ce pas? Mais le secret était là. Voilà un arbre qui était dans ce désert implacable du Ténéré, planté, en quelque sorte, allant chercher ses sources jusqu'en profondeur très loin, et qui a été remplacé par un arbre métallique. Et notre vie, mes bien-aimés, au niveau du cœur à cœur, va soit dans la direction de cet arbre métallique, soit dans la direction de l'arbre authentique du Ténéré. Plus nous cultivons une intimité avec le Seigneur par ce biais du cœur à cœur que nous avons décrit en faisant un certain nombre de suggestions pratiques, plus nous ressemblons à ce personnage du psaume 1er, n'est-ce pas, qui est un arbre planté près d'un courant d'eau. Pensez au prophète Jérémie, n'est-ce pas, et à ce texte qui va tout à fait dans le même sens de Jérémie au chapitre 17, n'est-ce pas, où il est dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Quel défi nous est lancé quant à la vitalité de notre vie personnelle avec le Seigneur. Nous devons aller plus loin et donc aborder ce matin la seconde approche des Écritures complémentaire à la première. Nous avons dit, nous le répétons, chaque disciple de Christ se doit, à la lumière de la parole de Dieu, d'approcher cette parole de Dieu sous trois angles complémentaires. Sa vie personnelle, et je dirais ecclésiale, doit courir sur trois rails parallèles et absolument indissociables l'un de l'autre. La lecture cursive, vous remarquez la complémentarité, nous étions en bateau, nous sommes montés dans le jet et nous circulons par avion. C'est-à-dire que nous avons le désir maintenant d'avoir une vision globale de ce territoire fantastique de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes là très en haut et nous voulons vraiment avoir une vision générale de la parole de Dieu. Vous savez d'ailleurs que cette première partie, le cœur à cœur, est une des profondes caractéristiques du ministère prophétique dans les Écritures. Le prophète dans la parole de Dieu est celui qui donne une place toute particulière au cœur à cœur. C'est-à-dire qui vit vraiment ça au ras des pâquerettes, c'est-à-dire au ras des circonstances. Il est l'oreille du peuple d'Israël. Il est le guetteur. Il est la sentinelle. Il est celui qui vit l'événement tout en vivant dans le sanctuaire pour pouvoir communiquer au peuple de Dieu sa réponse au niveau de l'événement et du quotidien, n'est-ce pas? Alors que le docteur des Écritures est celui qui, d'une manière particulière, à privilégier cette vision par avion et qui peut donc apporter un enseignement équilibré et relativement exhaustif, parce que rien n'est jamais totalement complet tant que nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Parce qu'il a une vision d'ensemble des Écritures. Alors, nous devons veiller dans notre vie personnelle à associer ces deux dimensions si nous voulons avoir un équilibre spirituel. Lire la Bible comme un roman historique. Attention, je ne dis pas que la Bible soit un roman, même pas un roman historique. Je crois, et nous croyons, nous l'avons souligné, à l'inspiration plénière, totale, absolue et verbale, c'est-à-dire dans les mots et même dans les petits mots du texte original, nous l'avons souligné dans notre réflexion d'hier après-midi. Nous ne croyons pas à une inspiration simplement dans les idées. Nous ne croyons pas qu'il faut chercher la parole de Dieu dans la Bible. Nous disons que la Bible est tout entière parole de Dieu. Ceci doit être clair. Maintenant, nous devons aussi considérer les Écritures, notamment, par exemple, parce que nous allons insister avec une certaine pesanteur sur cette dimension, notamment dans le fait que l'Ancien Testament est un livre d'histoire. Il est LE livre d'histoire, notamment du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël reconnaît l'Ancien Testament comme son livre d'histoire. Nous avons, nous aussi, des livres d'histoire. Et nous n'aimerions pas, d'ailleurs, que le peuple d'Israël dise de nos livres d'histoire ce que nous disons, nous, de son livre d'histoire. Nous sommes d'un orgueil absolument incroyable, d'une impudence absolument incroyable, nous, peuples occidentaux, qui osons penser que l'Ancien Testament, le livre d'histoire du peuple d'Israël, est bourré de mythes, d'erreurs et de je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Si nos amis juifs disaient cela de nos livres d'histoire, nous serions outrés et nous crierions à notre tour au racisme, à je ne sais pas quoi, n'est-ce pas ? Il y a là des pendules à remettre à l'heure, certainement, même parfois, dans nos milieux évangéliques. Lire la Bible comme un livre d'histoire, la lire avec passion comme un roman historique. Je voudrais vous suggérer d'envisager que quelqu'un vous rencontre. Quelqu'un que vous allez complètement perdre de vue et qui va partir là sur une île déserte où il n'aura pas la Bible à sa disposition. Il ne sait pas lire. Il part trop rapidement pour que vous puissiez lui apprendre à lire. Et il vous pose la question droit dans les yeux, sans aucun brin de malice. Mon ami, racontez-moi la Bible en 5 minutes. Et oui. Comment est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous lancer là dans une étude et puis au bout de 10 heures, vous allez vous affaler sur votre lit et vous aurez parcouru quelques distances mais sans avoir englobé ce territoire fantastique des Écritures. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Mettez-vous à la maison devant votre armoire à glace, n'est-ce pas, et puis vous racontez la Bible en 5 minutes à la personne qui est en train de vous regarder. Et vous voyez de qui je veux parler. C'est un test à faire, parce que nous devons arriver progressivement à pouvoir véritablement raconter les Écritures et les résumer, tout comme on fait des fiches de lecture, n'est-ce pas, quand on se forme dans un lycée, n'est-ce pas, de manière à apprendre à synthétiser et à raconter brièvement un livre pour communiquer une envie de lecture, ou bien pour dissuader de le lire, n'est-ce pas. Alors il faut que nous puissions brièvement ramasser la parole de Dieu, sans la galvauder, sans l'altérer, mais pour communiquer, pour contaminer, n'est-ce pas, pour donner des petits boutons qui donnent envie aux autres de lire ce livre extraordinaire. Il a fallu plus de 3 jours, c'est-à-dire 79 heures et 11 minutes, à une douzaine de jeunes Allemands pour lire la Bible sans interruption, à haute voix, issue d'une paroisse protestante près de Kassel. Ceux-ci avaient entamé leur lecture à haute voix le samedi de Pâques. Un autre lecteur prenait le relais toutes les 20 minutes, et leur but était donc de mieux faire connaître la Bible à leur église. Et donc ils se sont succédés là dans cette communauté sur quelques 79 heures et 11 minutes, ce qui fait que si quelqu'un réussissait à tenir le coup, il avait la possibilité de s'installer là dans la salle et d'écouter en l'espace de ces 79 heures 11 minutes la lecture de la Bible tout entière. Et mes amis, il y a là quelque chose qui est tout à fait biblique. Vous savez, quand on lit un texte biblique d'un chapitre, pour peu que ce chapitre ait une soixantaine de versets, il y a déjà des croyants qui se plaignent dans nos églises évangéliques. Ce qui, disons-le entre nous, est lamentable. Et je n'hésite pas à utiliser ce terme. Parce que nous devrions aller voir, dans l'Ancienne Alliance, comment, du temps d'Esdras-Néhémie, ont passé des matinées entières. Et parfois, sous un climat, enfin, je ne dis pas plus, simplement à l'écoute de la parole de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Et je bénis Dieu de ce que dans mes voyages outre-mer, je sois rafraîchi dans ce domaine. Mon épouse pourrait vous expliquer qu'il y a quelques années, lors d'un premier voyage en Afrique, en Côte d'Ivoire, à l'invitation de deux organismes missionnaires et d'une fédération évangélique, j'avais donné un enseignement dans un camp de fonctionnaires, d'enseignants, en plein cœur de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois que je m'arrêtais, au bout d'environ 1 heure d'étude, les amis disaient « il faut continuer ». Alors je continuais et j'ajoutais une 2e heure. Et puis au bout de la deuxième heure, les amis disaient, il faut continuer. Et j'ai donc ajouté une troisième heure. Et ma femme me disait, tu sais, je commençais à avoir sérieusement peur pour toi, parce que je te voyais blanchir finalement, au fil des minutes. Il y a quelques semaines, je suis rentré d'un cinquième voyage aux Antilles, ces toutes dernières années, et à l'occasion de ce voyage, essentiellement tourné vers la Guadeloupe, j'avais été invité sur une petite île, une assiette renversée à un quart d'heure d'avion de la Guadeloupe, qui appartient d'ailleurs au département de la Guadeloupe, qui s'appelle Marie-Galante, du nom d'un des bateaux de Christophe Colomb. Et là se trouvent deux communautés évangéliques dont j'ai vu pratiquement la naissance lors d'un tout premier voyage en 1980. Et quand je suis arrivé, c'était un samedi, je suis sorti de l'avion et le serviteur de Dieu, le missionnaire qui m'accueillait, m'a dit « Écoute, nous allons d'abord, ça je le savais, vivre un mariage ensemble. » J'ai donc participé à un mariage antillais. Avec tout ce que cela signifie, de la culture antillaise aussi. Nous nous sommes couchés assez tôt, mais beaucoup se sont couchés beaucoup plus tard que nous, voire à l'aube. Mais ce qui était intéressant, donc il y avait là toute l'église qui participait pleinement à ce mariage. Et le matin, nous avions rendez-vous à 9h pour le culte. Alors tout d'abord, ce qui m'a fait du bien, c'était de voir que toute la communauté était là. Ils avaient fêté pendant la nuit, dignement, à la gloire du Seigneur, mais ils étaient là. Et au premier rang, là, hein, j'étais ici, là, il y avait le couple. Ceux qui venaient de se marier, ils étaient là. Et ils étaient là avec la Bible, les stylos, les cahiers. Et vous savez pour combien de temps d'études, vous qui vous plaigniez, quand il y a malheureusement 1h15 d'études. Vous savez combien de temps ils avaient demandé, c'est eux qui ont demandé, hein, 3 heures d'études. Vous entendez, 3 heures. Nous avons terminé vers 1h de l'après-midi. Tout simplement parce que je devais reprendre l'avion pour aller donner une conférence dans la région de Pointe-à-Pitre. Mais la soif qu'ils avaient, la soif. Et vous savez, un certain nombre d'entre eux avaient traversé la mer par bateau, ceux qui n'étaient pas de l'église, d'autres étaient venus par un mauvais temps. Oh, il faisait très beau, mais la mer était en mauvais état, certains avaient été malades, je ne sais pas si vous avez déjà eu le mal de mer, moi je l'ai eu à plusieurs reprises en traversant la Manche, rien n'est plus désagréable que le mal de mer. Hein. Et ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif. Une soif de la parole de Dieu, une soif du Seigneur, n'est-ce pas? Alors il y a là quelque chose qui devrait nous faire là aussi reconsidérer nos priorités. Et je crois que nous devons retrouver dans nos vies d'église davantage de lecture de la parole de Dieu. Vraiment, lire les Écritures ensemble. Se partager les Écritures, ce qui permet aussi de rendre nos cultes plus vivants. S'il y avait dans les cultes, en bien des endroits, davantage de lecture d'un texte qui nous a fait du bien. Vous savez, quand vous avez été confronté dans votre cœur à cœur avec le Seigneur, hein, quand vous avez été confronté avec un texte par lequel Dieu vous a parlé, par lequel il vous a ouvert de nouveaux horizons, le noter, dire, bon, ça c'est un texte que je réserve pour le culte de dimanche, je vais communiquer ce qui a tellement touché mon cœur. Vous ne croyez pas que Dieu peut faire du bien? Plus que par tout ce qu'on peut parfois y ajouter en diluant en quelque sorte la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà une ouverture importante. J'ai noté qu'il faut environ 38 heures pour lire entièrement l'Ancien Testament à vitesse tout à fait moyenne et environ 11 heures pour le Nouveau Testament, ce qui fait en tout 49 heures pour lire la Bible tout entière. Donc, si vous lisez la Bible à haute voix, à une allure normale, il faut habituellement aux alentours de 70 heures et 40 minutes. C'est intéressant parce que ma source est tout à fait d'ailleurs que ce que je vous ai dit des jeunes qui ont lu en Allemagne. Mais vous remarquez qu'il y a concordance à peu près entre les deux propositions. Si donc nous lisons chaque jour de l'année un maximum de 4 chapitres des Écritures, normalement c'est 3 chapitres et demi, mais enfin c'est un peu compliqué, Et comme on veut être généreux pour avancer dans la lecture de la Bible, 4 chapitres, nous pouvons facilement la lire entièrement au cours d'une année. Et si nous lisons simplement la Bible pendant 1 heure d'affilée chaque dimanche, n'est-ce pas, 52 heures, nous serons déjà pratiquement dans les temps pour la lecture complète en une année. Vous voyez que finalement, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous avons souvent le sentiment d'avoir accompli un exploit lorsque nous avons réussi à lire la Bible une fois. C'est dommage, parce qu'il n'y a rien d'un exploit. Je pense à cet ami ancien dont je parlais hier ou avant-hier, qui, après avoir rangé la télévision ancienne d'une grande église en Alsace, s'est mis à lire la Bible comme jamais auparavant, et qui l'a lu. Je crois maintenant qu'il a dû, en à peu près 2 ans, la lire au moins 10 fois. Et ça a été un bouleversement pour leur vie de famille. Ce sont de très chers amis que nous connaissons bien. Et manifestement, cette approche personnelle, régulière, systématique des Écritures a fait un bien fou à cette famille et à cet ancien, et je suppose aussi, par répercussion, à la vie de l'Église locale. Parce que l'Église locale est ce que nous faisons d'elle par nos vies personnelles, conjugales et familiales. Pourquoi lire la Bible de cette manière, sur une année de préférence? Simplement parce que par expérience, on sait que si on met beaucoup plus de temps, quand on arrive, vous savez ce que c'est quand vous lisez un roman, si vous le lisez sur 6 mois, à la fin, vous ne savez plus très bien comment était le commencement. Hein, il faut le lire, si possible, dans un laps de temps suffisamment court pour avoir une bonne vision d'ensemble du déroulement de la trame, du scénario, si vous voulez, n'est-ce pas? Exactement comme quand on voit un film. Vous n'imaginez pas voir un beau film et le voir sur 6 mois par petits morceaux, n'est-ce pas? On aime bien voir les choses de manière globale. Et pourquoi est-ce que nous ne faisons pas cela vis-à-vis des Écritures? Alors, quelques mots avant de parler des différents buts de cette approche, quelques mots sur la méthode. Comment aborder cette Bible en un an, de manière régulière et d'année en année? Vous savez qu'il existe des plans de lecture, des grilles. La Ligue pour la lecture de la Bible propose d'ailleurs cette possibilité de lire la Bible entièrement sur une année, et il existe d'autres grilles. Je vais laisser à votre disposition. Alors, je rappelle et j'informe ce matin qu'est à votre disposition tout d'abord ce petit document en recto verso qui est une aide personnelle pour la méditation quotidienne, puisqu'il y a un certain nombre de questions tout à fait pratiques, des cases dans lesquelles on peut indiquer des références, des réflexions personnelles. Alors, pour ceux qui ne se seraient pas servis hier ou qui ne sont là que ce matin, je vous encourage vivement à utiliser ce canevas de méditation personnelle. Je vais le laisser là-devant, comme nous l'avons fait hier, plusieurs se sont servis. N'hésitez donc pas à vous servir. Ceci pour la méditation personnelle. J'ai ici un autre canevas qui est destiné donc à la lecture de la Bible sur une année. Je l'ai sous 2 formes. Ceci est un travail qui a été fait par un de nos stagiaires dans le cadre de ses activités de stage. Et il s'agit donc d'un système tout à fait simple, avec la possibilité de cocher des cases pour pouvoir voir où l'on en est dans son approche personnelle systématique des Écritures. C'est bien d'avoir des points de repère pratiques. Alors, c'est tout simple. Ce système a été photocopié, il est là. Bon, là, il est un peu cartonné sur papier plus épais, mais ceci aussi est à votre disposition. Il y en a une 50aine d'exemplaires, j'ai laissé une grille complète qui peut être photocopiée. Donc, servez-vous de manière à pouvoir étudier la Bible de cette manière. Il existe aussi, voyez, un autre petit tableau. Certains d'entre vous l'utilisent peut-être. et vous cochez les cases au fur et à mesure que vous avancez dans votre lecture au fil des jours. Donc un plan de lecture, je crois que c'est une chose importante d'avoir un plan de lecture pour se discipliner. Et j'encourage la lecture, cette approche par avion des Écritures, parallèlement Ancien et Nouveau Testament. C'est une bonne chose d'en arriver à pouvoir lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est sûr que ça vaut la peine, en cours de route, dans sa vie chrétienne, de lire plusieurs fois la Bible de cette manière. Mais, généralement, cela n'est pas à conseiller. Nous sommes tous appelés, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, à conseiller tel jeune homme, telle jeune fille ou tel enfant qui a pris position pour Jésus-Christ et qui est donc au seuil de la vie chrétienne. Et il importe aussi de lui apprendre, de communiquer le plus rapidement possible ces bonnes bases de la méditation personnelle et de l'étude systématique, de la lecture systématique des Écritures. Vous savez, je me suis rendu compte dans le ministère de relations d'aide, tout au long de mes déplacements, en m'entretenant avec beaucoup de jeunes, à l'issue de certaines études, que beaucoup de jeunes très engagés parfois dans l'évangélisation, qui savent fort bien gratter de la guitare et jouer d'un instrument, engagés dans des groupes musicaux, dans des chorales, n'est-ce pas, et qui sont tout feu, tout flamme, négligent terriblement la méditation personnelle des Écritures. Ont, hélas, trop souvent, très peu de piété personnelle. Et vivent donc une instabilité et une fragilité spirituelle qui peut leur coûter très cher s'ils montent au front pour servir le Seigneur avec les moyens que Dieu leur a communiqués. Alors ça, c'est un avertissement, n'est-ce pas? Il y a une grande fragilité, nous l'avons dit hier soir, dans nos vies d'église, qui sont liées au fait que dans le domaine du béaba de notre vie avec Christ, souvent, il y a des lacunes énormes. Alors que parfois nous donnons le sentiment peut-être même d'une grande consécration et d'un engagement à fond dans l'évangélisation. L'évangélisation peut être dans notre vie, mes bien-aimés, une forme de fuite en avant, devant les responsabilités beaucoup plus difficiles de la persévérance dans le secret de la présence de Dieu. Nous préférons être des aigles plutôt que d'aller en profondeur dans une certaine obscurité où nous ne sommes pas connus des autres, mais mesurés par le Seigneur. Parallèlement donc, Ancien et Nouveau Testament. Il est bon, par exemple, de lire, quand on commence, Genèse chapitre 1er. Par exemple, le matin, bien des amis en région parisienne, dans le métro, font leur lecture cursive, parce que pour la lecture cursive, il n'est pas nécessaire d'être dans des conditions particulières de mise à l'écart, dans un silence, on lit la Bible comme on lit le journal du matin et comme d'autres lisent leur hebdomadaire ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Alors, on lit Genèse chapitre 1er, on lira peut-être sur le coup de midi ou au moment de la pause casse-croûte le psaume 1er, on lira dans la soirée peut-être Matthieu chapitre 1er, et puis un chapitre, par exemple, à partir des Épîtres, Romains chapitre 1er. Le lendemain, on va prendre Genèse 2, Psaume 2, Matthieu 2, Romains 2. Et ainsi, donc, petit à petit, on va avancer. Pourquoi cette diversité dans nos lectures? Tout simplement parce que beaucoup de croyants se sont découragés dans la lecture cursive lorsqu'ils s'engluaient dans les bourbiers du Lévitique. Quand vous devez, en lecture cursive, vous farcir le Lévitique d'un bout à l'autre sans avoir d'autres formes de lecture cursive ailleurs dans les Écritures, il est évident que vous baignez dans le sang des sacrifices, dans la graisse, etc., n'est-ce pas? Et que, bien entendu, quand on connaît mal la Bible, quand on n'a pas cette lumière extraordinaire de la Nouvelle Alliance, de la pédagogie formatrice de Dieu, des ombres, des figures qui annonçaient les gloires à venir, n'est-ce pas? On finit effectivement par désespérer dans les marécages de certaines scènes de la la vie du chrétien, vous savez, le voyage du pèlerin de Bunyan, n'est-ce pas? Alors, il vaut mieux lire un chapitre du Lévitique. Bon, ça va peut-être un peu passer de travers les premiers temps, mais on va être rafraîchi à un autre moment de la journée quand on sera en train de lire un psaume. Vous voyez, cette diversité est importante parce qu'elle va nous aider à persévérer. Et nous ne voulons pas être de ceux qui, par une espèce de masochisme spirituel, essaye de se complaire dans la douleur jusqu'à ce qu'il succombe, n'est-ce pas? On veut quand même mettre tous les facteurs de notre côté pour pouvoir persévérer. Là aussi, c'est parfois simplement une question de bon sens. Et vous comprenez d'autant plus qu'il faut avoir une grille de lecture sur laquelle on va pouvoir cocher si on lit à plusieurs endroits à la fois, parce que sinon, au bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien où l'on en est. Vous pouvez ultérieurement faire donc une lecture systématique de la Genèse à l'Apocalypse. Vous pouvez faire une lecture systématique, alors là je vous la recommande chaudement, c'est gratuit, faire une lecture des quatre évangiles d'affilée. Ça vaut la peine. Hein? Vous lisez dans un seul souffle les quatre évangiles. Parce que vous allez percevoir, surtout si vous le faites plusieurs fois, la complémentarité des évangiles. Ce fait qu'ils sont des regards différents sur la même personne, et puis qu'il y a alors un évangile qui tranche énormément, une lecture chronologique des évangiles. Vous savez que c'est un de nos problèmes, d'avoir une vision, dans le sens le plus bas du terme, mais une vision juste de l'itinéraire du Seigneur Jésus, une sorte de biographie de Jésus. Et pour cela, ce que je vous encourage à faire, c'est par exemple, sur ces fiches, nous avons beaucoup parlé fiches hier après-midi, vous voyez, ces fiches, en recto verso, sont ce qu'on appelle des fiches de synopse, c'est-à-dire présentent une harmonie des quatre évangiles. Vous avez cette harmonie des quatre évangiles, par exemple, dans le nouveau dictionnaire biblique et dans d'autres ouvrages. Alors, on peut, pour soi-même, pour son usage personnel, reproduire cette harmonie sur des cartes que l'on garde avec soi, peut-être pendant un certain temps à l'entrée de sa Bible, et il suffit donc de lire les textes dans l'ordre où ils se présentent, parfois aussi dans leur parallélisme, pour comprendre mieux la biographie, l'histoire de Jésus dans son déroulement. Et on apprend un tas de choses. On se rend compte que dans l'évangile de Jean, vous avez une année entière de la vie de Jésus qui a été passée sous silence. Que par contre, l'évangile selon Luc, qui est vraiment l'évangile de l'histoire, d'un des plus grands historiens reconnus de l'histoire, Luc, également médecin, n'est-ce pas, fait appel à toute une chronologie beaucoup plus détaillée, etc., etc., n'est-ce pas? Alors, je vous encourage à faire ceci de manière à avoir vraiment une idée plus claire du déroulement de l'histoire et de l'enseignement du Seigneur Jésus. Ce qui est important également, et là, nous avons un privilège fantastique. Nous devons être les uns et les autres, pas seulement moi, n'est-ce pas? Mais nous devons tous être des professionnels des Écritures. Il n'est pas question de dilettantisme, d'amateurisme dans le domaine de la parole de Dieu. Que nous soyons des professionnels, chacun à notre niveau, selon les capacités que Dieu nous confie, selon les dons qu'il nous donne, mais nous devons tous être des professionnels de la parole de Dieu. Comme nous devons tous être des professionnels de la vie de prière, n'est-ce pas? Il n'y a pas le choix. Nous n'avons pas tous certains types de ministères, il y a des dons divers, il y a des charges divers, il y a des ministères divers, c'est vrai, mais dans ce domaine, nous sommes tous appelés à faire un gros effort, donc à investir financièrement. Là où tant de nos frères et sœurs, encore aujourd'hui, languissent après le premier exemplaire de leur Bible qu'ils n'ont pas. Même en Afrique, j'ai dû diriger un séminaire au Burkina Faso et traiter tout un thème, mais ce thème appartenait à un livre de la Bible qui n'était pas encore traduit dans la langue de ses amis qui m'écoutaient. Et c'était un exercice fantastique pour moi. Parce que je savais que j'allais m'adresser à des gens qui ne pouvaient pas suivre dans leur propre langue ce que je leur racontais. Cela voulait dire que je devais leur raconter la Bible. C'était fantastique. Raconter les Écritures. Et là, je repensais au Seigneur Jésus comme il racontait les Écritures, n'est-ce pas? simplement, sans y ajouter des fioritures, raconter comment tel événement s'était passé, etc., et faire vivre la Bible en attendant qu'ils aient ces textes dans leur propre langue. Alors ici, je vous encourage à changer de Bible de temps en temps. Nous qui avons des stocks et des stocks de Bibles, qui avons de plus en plus de versions également, eh bien, n'hésitons pas à nous faire payer, voilà une fourmi qui aime beaucoup ma Bible. Vous voyez qu'il existe des fourmis évangéliques qui aiment la parole de Dieu. Il est question d'elles, hein, dans le livre des Proverbes, et elles sont tout un défi à notre indiscipline. Elles le font par instinct. Changez de Bible, changez de version de temps à autre. Parce qu'il faut gribouiller la Bible de la bonne manière. Mais il faut la mettre en peinture. Il faut la noter, il faut l'user. Ma femme a déjà prévu mon prochain cadeau de Noël, n'est-ce pas? C'est une nouvelle Bible, parce qu'il y a vraiment des endroits où ça commence à poser de sérieux problèmes de déchiffrage du texte. Alors je vous encourage, faites-vous payer la Bible, et vous changez de version de temps en temps. Ayez une Bible que vous traînez avec vous partout, qui est facile à glisser dans une poche, dans un sac à main, qui est toujours la même version, parce qu'on a besoin de points de repère, hein, surtout pour apprendre par cœur. Hein. Alors c'est bien d'avoir sa Bible que l'on traîne avec soi et que l'on conserve le plus longtemps possible. Mais, parallèlement à cela, pour votre lecture cursive, et même, je dirais, pour votre méditation personnelle, changez de Bible et de version de temps en temps. Parce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives à cause de la richesse du texte original et de l'embarras des traducteurs, parfois, dans le choix de certains mots. Il y a une complémentarité de nuances entre les différentes versions, même si le sens principal du texte n'est pas modifié d'une Bible à l'autre. Alors les moments pour cela, matin, midi et soir, c'est à chacun de s'arranger, les moments creux de la journée, les transports en commun, avant le dodo, parfois pendant les insomnies. Hein. Il y a des moments merveilleux à passer pendant les temps d'insomnie. Il y a ceux qui comptent des brebis, et puis il y a ceux qui parlent avec le berger. Mais il vaut mieux parler avec le berger que compter les brebis, hein. Ça ne change rien. Et ouvrir la parole quand on en a la possibilité. Et Dieu se révèle de cette manière. Alors nous allons dire encore, avant de terminer, quelques mots. Nous continuerons cet après-midi. Oh, nous raccourcirons d'ailleurs parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Mais quelques mots sur les buts d'une telle approche de la lecture cursive. Ceci pour encourager les plus réfrigérés à cet égard. Dieu veut faire tomber nos remparts d'incrédulité. Vous savez, les préjugés, disait Einstein, et il s'y connaissait en la matière, les préjugés sont plus difficiles à désagréger que les atomes. Et nous avons de ces préjugés, même en ce qui concerne l'approche personnelle des Écritures. La pensée clé que j'aimerais souligner, on va monter un peu plus haut, parce que sinon vous aurez des problèmes. La pensée clé, et je voudrais vous encourager à le mettre en page de garde. Hein, je vous ai déjà invité à mettre d'autres textes en page de garde hier, mais dans votre Bible, mettez en rouge cette pensée de cet homme de Dieu remarquable qui a travaillé notamment dans le cadre de la CMA, de l'Alliance chrétienne missionnaire, Tozer, qui est mort vraiment au front dans les années 60, un homme de Dieu très équilibré, un amoureux des Écritures, et qui disait ceci: il faut la Bible entière pour faire un chrétien entier. Il faut la Bible entière pour faire un chrétien entier. Ça, c'est vraiment quelque chose à inscrire là, en page de garde, chaque fois qu'on ouvre notre Bible. Dieu nous rappelle cette dimension tellement importante. Et vous avez remarqué l'indication de l'importance d'une bonne diététique spirituelle. Une bonne diététique spirituelle. Vous savez qu'on est à l'heure de la diététique. Je ne sais pas si on la pratique très bien, ça c'est une autre chose, parce qu'entre les grandes théories et la pratique, il y a parfois des fossés presque infranchissables, surtout dans notre beau pays de France, Et en Alsace, où la cuisine, vous savez que j'ai peur quand je vis en Alsace, j'ai peur à cause de... Hein, vous avez compris, ces bons plats qu'on nous cuisine. Hein. Ah, il faut avoir un estomac solide et se mettre, comme disent les Écritures, le couteau sous la gorge pour s'arrêter au bon moment, n'est-ce pas? C'est pas une critique, hein, mais j'ai fait quelques expériences dans ce domaine dans le passé. Je dis, ce week-end, ça s'est bien passé. Je ne veux pas que vous interpriez et que nos amis se retrouvent avec des problèmes. Hein. Ça s'est très, très bien passé, vraiment, durant ces moments. Attention au diabète spirituel. Vous savez que le diabète, notamment, touche les yeux. Hein. Et que ça touche donc à notre vision. Et le diabète est lié à une mauvaise diététique dans l'approche des Écritures. Il est le fait de ceux qui se contentent des sucreries de la parole de Dieu. De la graisse de la parole de Dieu. Selon leur conception, c'est ce qu'ils conçoivent comme étant le meilleur. Ce n'est pas forcément le meilleur aux yeux de Dieu, ça c'est comme la bénédiction. Nous avons nos conceptions de la bénédiction, Dieu a les siennes. Et la bénédiction dans la définition divine, elle fait parfois mal par où elle passe. Mais elle est salutaire. Et quand Dieu bénit, lui, il le fait pour l'éternité, elle est durable. Alors on peut comprendre que ces expressions fassent parfois mal pour notre bien à portée éternelle, n'est-ce pas? Il en est de même en ce qui concerne les Écritures. Lire ses passages préférés. Négliger les portions les plus difficiles. Je pense à cette femme de Dieu qui, lorsque j'ai fait sa connaissance, avait déjà derrière elle à peu près 25 ans de ministère avec son mari et qui m'a avoué une fois, et cela m'a beaucoup frappé, qu'elle n'avait pratiquement pas ouvert l'Ancien Testament dans sa vie personnelle. Elle ne vivait que dans le Nouveau Testament. Nous l'avons lu hier et avant-hier. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Nous l'affirmons. C'est un des points fondamentaux, sinon le point fondamental de nos confessions de foi. Parce que là, de là découlent toutes les affirmations qui succèdent ensuite dans nos confessions de foi. Mais là aussi, il y a souvent un fossé entre nos credos et nos pratiques. Parce que dans nos milieux évangéliques, nous faisons une différence énorme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et souvent, nous nous refusons d'obéir à la parole de Dieu parce que nous disons c'est dans l'Ancien Testament. Et il semblerait dans la pratique que l'Ancien Testament n'ait pas été inspiré au même degré que le Nouveau Testament. Or, Dieu nous a donné l'ensemble des Écritures. Il est évident qu'il ait un certain nombre de règles de lois qui, dans leur application pratique, sont devenues caduques, qui s'adressaient à une nation dans son existence propre et dans son gouvernement théocratique, tout à fait particulier. Mais même ce fait que certaines lois soit faite d'une manière toute particulière dans leur application pratique pour Israël, ne doit pas nous faire escamoter une affirmation très importante, c'est que derrière ces lois se cachent des principes spirituels qui sont valables pour les croyants de tous les temps. Et c'est parce que nous avons évacué l'Ancien Testament, parce que nous avons évacué le Lévitique, et d'autres livres, les petits prophètes de nos Bibles, ou même certains passages des principaux grands prophètes, que nous souffrons de tant de déséquilibre, de tant de sectarisme, de tant de division, de tant d'idées bizarres, parfois dans nos vies. J'aime illustrer ce propos par ce qui s'est passé le 7 décembre 1941, à 8h20 précise, lorsque les États-Unis ont connu le plus grand désastre militaire de leur histoire. En une demi-heure, à peine, les forces américaines du Pacifique basées à Pearl Harbor, sur l'île d'Hawaï, ont été donc réduites à néant par les escadrilles japonaises. Il y aurait beaucoup de choses à dire, même bibliquement parlant, sur cet événement, parce que Roosevelt était parfaitement au courant de l'événement. Et il a préféré sacrifier un pion sur l'échiquier des États-Unis pour un certain nombre de raisons. Il y a toutes sortes d'enseignements spirituels derrière l'histoire du monde. Mais il y a un enseignement tout à fait particulier qui est lié aux temps qui ont précédé ce désastre militaire. Parce que ce jour-là, le 7 décembre 1941, un homme exulte et savoure son triomphe. C'est le premier ministre du pays, le général d'infanterie, Tojo. Et ce premier ministre est heureux parce qu'il a gagné. Il savoure son triomphe parce que pendant des mois et des mois, ce militaire de haut rang a voulu influencer le Parlement, la population, pour que le Japon entre en guerre contre les États-Unis. Il pensait à la gloire de l'Empire du Soleil Levant, il pensait que c'était le moment ou jamais que l'on pouvait vraiment remporter une victoire, provoquer les États-Unis. Et il se trouve qu'au moment où il savoure son triomphe, le général d'infanterie Tojo ne sait pas qu'il vient de perdre la guerre. Il y avait en face de lui, pendant les mois qui ont précédé, un autre grand homme de guerre, un amiral, qui porte un nom bien japonais, Yamamoto. Et Yamamoto, lui, n'était pas médisant à l'endroit de Tojo. Il le considérait comme ce qu'il était, un homme remarquable, intelligent, doué. Mais il disait, voyez-vous, il y a une grande différence entre Tojo, qui veut vous plonger dans la guerre contre les États-Unis, et moi-même, qui ne veut pas du tout vous encourager à vous lancer dans la guerre parce que je sais que nous allons perdre, même si nous gagnons la première bataille. Le problème du Premier ministre, que je respecte, c'est qu'il n'est jamais sorti du Japon. Personnellement, je suis amiral. Depuis mon adolescence, j'ai bourlingué sur toutes les mers du globe. J'ai peu à peu acquis des grades. J'ai longé la côte pacifique, j'ai longé la côte atlantique le long des États-Unis. Je me suis entretenu avec tant de gens. Et je peux vous dire que les États-Unis ont une puissance, une capacité économique, et une capacité, un potentiel militaire tel que si nous gagnons une bataille, nous perdrons la guerre. Le problème de Tojo, c'est qu'il est immergé dans la seule petite réalité du Japon. Personnellement, j'ai eu une vision mondiale, et ça fait toute la différence entre notre vision des choses. Et vous le savez, qui a donné... Enfin, qui a eu raison dans la suite de cette histoire? C'est Yamamoto. Et aujourd'hui, Yamamoto encore est vraiment dans le souvenir du peuple japonais. On pense à lui parce qu'on pense à sa sagesse. Tojo, bon, il est là dans les chroniques de l'histoire, mais beaucoup moins considéré. Tout simplement parce que, vous le savez, le 6 août 1945, il y a eu la réponse à Pearl Harbor. Avec Hiroshima, n'est-ce pas, Hiroshima, et un peu plus tard Nagasaki. Dans notre vie, il en est ainsi. nous pouvons remporter quelques batailles, quelques victoires tonitruantes dans notre vie chrétienne, si nous nous promenons dans le petit Japon de nos Écritures. Mais nous perdrons la guerre. Nous connaîtrons des défaites particulièrement cuisantes, des Waterloo dont nous aurons de la peine à nous relever. Alors que si nous parcourons tout le territoire, je dirais mondial, cosmique des Écritures, de Genèse 1 à Apocalypse 22, nous aurons une vision équilibrée qui va nous éviter bien des drames, bien des pièges, et nous acquérons dans notre vie une stabilité spirituelle qui est tellement importante dans ce monde si instable. Et vous savez que quand nous nous convertissons à Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes tant d'instabilité. Et nous avons vraiment besoin de trouver en Jésus-Christ et par le service, le ministère du Saint-Esprit en nous, cet équilibre, cette réorganisation intérieure, pour que chaque élément de notre personnalité soit bien à sa place, pour que notre regard soit rectifié sur les choses, les êtres, les circonstances. Et cela commence par un regard juste sur notre Dieu. Dis-moi quelle est ta vision de Dieu, et je te dirai quelle est ton attitude dans la vie de tous les jours. Et notre vision de la personne de Dieu et de son Fils Jésus-Christ dépend du sérieux que nous prenons à lire toute la lettre que Dieu nous a donnée. Il ne vous viendrait pas, je suppose, sauf quand ce sont des lettres très antipathiques dont on devine le contenu, il ne nous viendrait pas à l'idée de lire une lettre reçue d'un cher ami en lisant simplement un petit morceau au milieu et puis la salutation de la fin. Nous lisons d'un bout à l'autre. Et nous la lisons et nous la relisons et nous la relisons encore. Quand je suis outre-mer, les lettres qui viennent de la maison... Je vous assure que je bats tous les records, alors je les lis, je les relis, je les relis encore, et si la nuit je ne peux pas dormir, je les relis encore, n'est-ce pas? Ah, c'est important, parce que c'est le courrier de quelqu'un qui m'aime profondément, n'est-ce pas? Alors, à combien plus forte raison quand il s'agit de la parole de Dieu? Luc 24, 27, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures, j'ai ici un texte, si quelqu'un veut le consulter tout à l'heure, qui contient Jésus-Christ dans toutes les Écritures. C'est-à-dire qu'à chaque livre de la Bible correspond à un titre de la personne de Jésus-Christ. C'est important. Quelle étude biblique Jésus a-t-il dû donner, hein? Passant en revue l'ensemble de l'Ancien Testament, pour illuminer le cœur, pour faire brûler intensément le cœur de ces deux disciples désemparés, en leur montrant que dans chaque page de l'Ancien Testament, sa personne et son œuvre étaient annoncées avec une force absolument extraordinaire et une précision fantastique. Acte 10, 43, il est question de tous les prophètes. Acte 20, verset 27, tout le conseil de Dieu. Voilà un défi. C'est une raison, parmi d'autres, une bonne diététique spirituelle. Et je termine pour ce matin en soulignant d'ailleurs, ça c'est l'humour et l'amour de Dieu, que plus d'une personne s'est convertie à Jésus-Christ à partir de textes qui nous semblent tellement insipides et indigestes. J'ai sous les yeux une illustration tout à fait authentique d'un marchand de Londres qui était fort porté à se moquer de la Bible, et un dimanche, il veut faire plaisir à sa nièce qui le conviait depuis un certain temps à l'accompagner au culte. Alors, ils se rendent ensemble, bras dessus à l'église, et la jeune fille, quand elle entend la lecture qui précède et qui introduit le message, et fort désappointé, tout simplement parce qu'il s'agissait du cinquième chapitre de la Genèse. Vous connaissez ce chapitre 5, hein? Adam engendra, etc. Vous savez, toute la suite de ces généalogies, et puis il mourut. Ça, c'est un chapitre pour donner la dépression, hein? Puis il mourut, hein? Alors elle se dit, mais que c'est dommage que j'ai été mal inspiré
d'emmener mon tonton ce matin. Vous vous rendez compte quelle idée il va avoir de la parole de Dieu. Puis le message a eu lieu et puis cet oncle est rentré à la maison et il n'a pas pu dormir. Il a ouvert la Bible et il a trouvé dans la vieille Bible qu'il a dû chercher pendant un moment ce Genèse chapitre 5. Et il s'est mis à lire. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Tous les jours que Seth vécut furent de 912 ans, puis il mourut, puis il mourut. Et il se dit finalement, aujourd'hui je vis, mais un jour je devrais mourir moi aussi. Alors, où serai-je pour l'éternité? Et cette nuit-là, ce tonton s'est converti à Jésus-Christ. Je suis sûr que sa nièce s'est mise à lire tous les textes qu'elle n'avait jamais lus dans la Bible jusqu'à. Ah oui, vous savez, il y a des pépites dans des textes qui apparemment sont des textes hérissons. Hein? Il y a des pépites. C'est pour cela qu'il vaut la peine de lire. Je ne dis pas qu'on soit obligé de s'apesantir pendant 10 minutes sur chaque nom. Il y a même les fils de Décker, vous savez, dans les Écritures, je suis très fier. Intendant de Salomon. Ils ont oublié le C, mais il y a bien un Descartes qui a un T au bout par là, n'est-ce pas? Alors, peu importe. Hein? Mais ça vaut la peine. Dieu peut un jour nous reprendre ou nous parler à la faveur d'un de ces textes apparemment insipides. Oh, que Dieu nous fasse le bien qu'il veut nous faire au travers de tout ce que nous avons simplement partagé ensemble. Nous passerons encore un moment cet après-midi très courtement à donner 2 ou 3 autres éléments dans ce même domaine, les raisons de la lecture cursive. Nous ne dirons que quelques mots sur la troisième approche parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis je vous distribuerai le matériel nécessaire pour pouvoir, jour après jour, annoter votre Bible pour qu'elle devienne, si elle ne l'était pas encore, ou qu'elle devienne plus si elle l'est déjà, ce livre le plus cher à nos cœurs. Vous savez, le fils de Walter Scott, quand son père était sur son lit de mort, a entendu son père lui dire « Mais amène-moi le livre !» Alors le fils a dit « Mais tu sais, tu as tant de livres, quel livre veux-tu que je t'amène ?»« Mais le livre !»« Mais oui papa, mais quel livre ?»« Mais enfin, le livre c'est la Bible !» Le livre. Seigneur, merci, merci de tout cœur. Nous te bénissons, nos cœurs sont dans la joie pour l'héritage que tu nous as légué en nous donnant la Bible. Seigneur, nous savons que si nous n'avions pas ta parole, le visage de Jésus-Christ serait déjà tellement altéré, tellement pâle, tellement défiguré. Ta propre personne et tes œuvres seraient déjà tellement caricaturées. Tu sais combien nous sommes oublieux, combien notre mémoire est fragile. Nous te bénissons de ce qu'après t'être incarné en Jésus-Christ, tu aies pris soin de t'incarner dans le livre. Parole faite chair, parole écrite, parole transmise miraculeusement au travers des âges. Seigneur, merci. Merci pour ce miracle dont nous sommes les objets. Seigneur, ranime en nous le zèle, ravive la flamme, renouvelle notre soif de vivre près de ta parole et de lui donner les plus précieux de nos instants. Merci parce que tu es celui qui donne ce qu'il ordonne. Nous ne sommes pas livrés à nos propres efforts, mais en mettant nos volontés en action, dans la foi, en nous situant clairement de ton côté, tu nous promets l'action vivifiante, le secours permanent et parfaitement efficace du Saint-Esprit, ta grâce, ton soutien en Jésus-Christ par l'intercession d'en haut. Seigneur, nous avons tant à notre disposition pour ne pas nous décourager dans notre approche de ta parole, et dans l'application pratique à nos cœurs, à nos vies, concrètement, dans le quotidien. Seigneur, tu veux bénir la fin de ce culte et tu veux nous réjouir ensemble pour ceux et celles qui qui vivront l'agape, Seigneur. Merci de nous bénir dans nos relations les uns avec les autres, que nous puissions être un peuple qui s'aime en ton nom, et puis prépare dans ton amour l'étude de conclusion de cet après-midi. Nous te louons et te rendons grâce et gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.